Et c'est notre joie, mon épouse Tina et à moi-même, d'être là. Faut-il préciser que nous le sommes en visite privée et qu'il s'agit simplement ce matin d'une heureuse parenthèse dans cette visite privée, une petite dimension publique et fraternelle dans le cadre de ce culte que nous sommes très heureux de vivre avec vous. Cela contribue à remplir un peu plus cette salle au milieu du mois d'août et nous nous en réjouissons aussi. Nous allons lire ensemble, ou en tout cas je lirai pour vous, un chapitre presque complet du livre de la Genèse. Je veux parler de Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, dont nous lisons les 29 premiers versets. Genèse 19, les 29 premiers versets. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assise à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin, vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangeaient. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, ferma la porte derrière lui et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'hommes. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous allons te faire pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri de ses habitants est grand devant l'Éternel, contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit, il parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme, tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Et Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas insignifiante, et que mon âme vive ?» Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, la minuscule. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel, et il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes, les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint un pilier de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, comme illustration, comme avertissement. Et ce chapitre, tout comme les chapitres qui précèdent, tourne essentiellement autour d'une question de regard. Trois personnages principaux dans ce chapitre 19, parmi d'autres, confrontés avec le même événement. Un événement, faut-il le dire, de type apocalyptique. Surgissement du jugement de Dieu dans l'histoire. Échantillon, pâle échantillon de ce qui est en train de se dérouler, de se développer, de s'amplifier sous nos yeux. Trois personnages qui, confrontés avec le même événement, réagissent de manière très différente l'un de l'autre. Trois regards différents sur la vie, sur les êtres, sur les choses, sur les événements. Trois regards aux conséquences extrêmement riches et solennel de signification. Et nous, vous et moi, sans exception, sommes obligatoirement l'un de ces trois regards. Trois regards. Faut-il le souligner tout simplement parce que nous sommes très très influencés par ce qui occupe notre regard. Nous sommes très influencés par ce qui mobilise notre regard. Fenêtre de l'âme et de l'esprit. Mais qui dit fenêtre dit aussi conduit de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a tout d'abord le regard le plus connu, devenu regard proverbial dans toute l'histoire juive, puis dans l'histoire chrétienne entre guillemets, et même je dirais dans l'histoire laïque comme on dit très souvent. Je veux parler du regard de celle que nous pourrions appeler Madame Lot. Je me suis demandé quel nom lui donner. J'ai pensé à Garonne, parce qu'il y a le Lot et Garonne, mais ça ne marche pas en l'occurrence. Alors restons donc à Madame Lot. Madame Lot, dont il nous est dit au verset 17 tout d'abord, indirectement, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Puis, vous l'avez vu avec moi, au verset 24 à 26. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes, les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue, une colonne, un pilier de sel. Jésus s'est inspiré de ce texte solennel du livre de la Genèse, auquel il a donné des lettres de crédit toutes particulières. Nous ne sommes pas en face de légendes, de récits mythiques, mythologiques, que sais-je encore. Jésus donne crédit à ce texte pour le citer comme un événement qui a eu lieu dans l'histoire humaine. Et c'est donc dans Luc 17, versets 32 et 33, qu'il dira « Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra », ajoute-t-il. Quel est le problème principal, en tout cas, de Madame Lot? Eh bien, il est précisément au niveau de son regard. Et son regard est signe. Son regard a un sens. Son regard sous-entend quelque chose. Son regard traduit un attachement malsain. Il va au-delà d'une curiosité sur un événement subit. Son regard traduit un attachement malsain à des valeurs que Dieu désapprouve, à une mentalité que Dieu désapprouve, à un comportement que Dieu désapprouve. Valeur, mentalité, comportement de ce monde appelé le monde de Sodome et Gomorrhe. Et c'est là que le prophète Ézéchiel nous est très utile par son apport concernant la pensée de Dieu à l'endroit de Sodome et Gomorrhe, puisque dans Ézéchiel 16, versets 49 et 50, nous lisons « Voici quel a été le crime de Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, puisqu'il y avait effectivement toute une série de villes qui tournait autour de cette plaque tournante importante. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines. Et elles ont commis des abominations devant moi. » Donc le désordre sexuel, par exemple, qui nous frappe et nous retourne dans la lecture de ce texte, n'est que le fruit d'une mauvaise disposition de cœur, de l'orgueil et d'autres éléments dont nous allons parler. Elles ont commis des abominations devant moi et je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Regarde Dieu, regarde les hommes, regarde Dieu. Jude, dans le verset 7 de sa courte lettre, dira ceci: Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent à la débauche et à des vices contre nature sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Comment décrire le drame, le péché, le problème de Sodome et Gomorre dans le langage du Nouveau Testament. Le passage que nous avons eu dans Ézéchiel 16, 49-50 nous oriente de manière incontournable vers ce texte de la première épître de Jean, au chapitre 2, l'une des grandes définitions bibliques, 1 Jean 2, 15-16, qui commence par une exhortation impérative. 1 Jean 2, 15-16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Sodome, c'est le monde. Bien sûr, c'est d'abord un rassemblement de personnes. C'est là la signification de base du mot monde. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire l'ensemble des habitants de cette terre, en tout lieu, en tout temps. Mais nous savons qu'au-delà de cette signification de base, le terme monde est très fréquemment utilisé dans le Nouveau Testament dans un sens beaucoup plus précis, pointu, et négatif, qui repose sur la signification du mot, du vocabulaire grec du Nouveau Testament, le monde étant la traduction d'un mot francisé, d'un mot grec francisé que nous connaissons tous, c'est le mot cosmos. Le cosmos, qui est dans la pensée grecque, et aussi d'ailleurs dans la pensée biblique, normalement, le contraire du chaos, du chaos. Cosmos, chaos. Cosmos, ordre, organisation, avec parfois même une dimension de beauté, les cosmétiques nous viennent de là. Chaos, désordre. Alors bien entendu, lorsque Dieu a créé ce cosmos, l'ordre de Dieu est beau, harmonieux. Il est question du poème de Dieu, la création, l'ouvrage de Dieu, c'est le mot poème, n'est-ce pas ? Ah, la cosmétique de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Et nous en avons beaucoup profité en voyant des paysages extraordinaires pendant nos vacances. Mais hélas, généralement, le mot cosmos n'est pas utilisé dans son sens positif. Par l'apôtre Jean, par exemple. Mais pour évoquer une sorte d'ordre, de système, qui est une caricature de l'ordre de Dieu. C'est un système diabolique. C'est une organisation diabolique. C'est une stratégie diabolique. Un ordre, une organisation sous la domination de Satan. Rebelle à Dieu, opposé à sa volonté, séparé de lui. N'aimez pas le monde, cela veut dire n'aimez pas ce système, n'aimez pas cette mentalité, n'aimez pas cette organisation du diable sur la terre qui caricature la beauté de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que le réformateur Martin Luther a appelé avec révérence la puissance des ténèbres le singe de Dieu. Le cosmos du diable est la caricature du cosmos de Dieu. Et le problème, et l'apôtre Jean le dira dans 1 Jean 5, je crois, c'est que le monde entier, la terre entière, gît sous le malin, sous la domination du malin. Et c'était là le problème de Sodome. C'était d'être sous la férule, sous l'autorité usurpé de la puissance des ténèbres. Et ce monde, ce système, cet ordre, l'apôtre Jean, de la part de Dieu, nous le présente avec trois caractéristiques. La première sera pour évoquer la convoitise de la chair, les désirs, et ici il y a une connotation négative, parce que le mot désir qui est utilisé dans le texte, parfois une connotation positive, mais généralement une connotation très négative, les désirs coupables. Les désirs coupables qui émanent de la chair. Ceux qui me connaissent ici savent que j'aime faire allusion à la fille du général Booth, la fameuse maréchale, qui est venue d'ailleurs en France et en Suisse, qui a fait tout un travail, et qui, quand elle parlait de ses activités spirituelles et qu'elle enseignait les Écritures dans le cadre de l'armée du salut à son départ, évoquait l'hippopotame-moi. La chair, l'hippopotame-moi. Les désirs coupables de l'homme livré à lui-même. Notre nature humaine déchue. Et nous avons là aussi un texte fondamental dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 5 et au verset 19, où il est dit que les œuvres de la chair, de l'homme livré à lui-même, de cette nature humaine déchue, les œuvres de la chair sont évidentes, évidentes. Ça crève les yeux. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Un premier groupe qui évoque toutes les perversions de la sexualité. D'ailleurs, le premier terme est un générique, la débauche, la porneia, qui évoque donc toutes les perversions de la sexualité, et il est précisément que tout cela est impur, tout cela est un signe de dérèglement. Mais vous remarquerez que ce n'est pas la seule signification de la chair. On parle facilement des péchés de la chair, n'est-ce pas ? Mais les Écritures vont beaucoup plus loin, puisqu'ensuite vous avez un deuxième groupe de mots très développé. Enfin, le deuxième est plus court, c'est le troisième qui est très développé. Le deuxième, l'idolâtrie, la magie. C'est-à-dire toutes les perversions dans le domaine religieux. Tout ce qui, au lieu d'aller à Dieu, au Dieu révélé, par le seul chemin et la seule porte qui s'appelle Jésus-Christ, essaye d'utiliser des moyens détournés pour y monter quand même. Et puis enfin, il est question de toutes les autres perversions et surtout les perversions d'ordre relationnel en particulier, puisqu'il est dit dans le texte, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Toutes les passions qui disloquent les relations humaines et qui avilissent la personne. Est-ce que ce n'est pas évident ? Est-ce que nous n'en avons pas des démonstrations impressionnantes, plus que jamais, d'heure en heure, tout au long de nos jours et de nos nuits ? Est-ce que même nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous ne sommes pas chatouillés par la chair ? Cette vieille nature crucifiée mise au cercueil, mais qui de temps en temps fait remuer le couvercle du cercueil tant elle a envie d'en sortir, n'est-ce pas ? Convoitise de la chair, le désir de régner, de posséder, de briller, de s'imposer, d'être le plus fort. Tout ce qui génère les divisions, les querelles, l'esprit de parti, la jalousie, la rancune, la calomnie, la haine, la violence, le meurtre. Ce que nous lisons et voyons dans tous les reportages, toutes les nouvelles quotidiennes. Et puis la convoitise des yeux, c'est-à-dire une mentalité qui attache beaucoup d'importance à ce qui frappe le regard et qui excite nos tendances naturelles en utilisant comme voie de passage la fenêtre du regard, la séduction par le regard. Faut-il évoquer la pub ? Les médias visuels dans le domaine de l'économie, des loisirs et dans tant d'autres domaines encore. Et puis enfin, l'orgueil de la vie. Deux mots particuliers. Il y avait un choix dans le vocabulaire grec. Ce sont deux mots particuliers qui sont utilisés. Le premier évoque la satisfaction insolente, la vantardise, orgueil de la vie, bios, c'est-à-dire les biens, les possessions, les ressources, aussi bien matérielles qu'autres, de chacun. Il s'agit donc de la satisfaction insolente venant de la possession de nos ressources. La confiance présomptueuse liée à ma situation dans la société, à mon compte en banque, à mon statut et à mes relations sociales, à mon patrimoine. Cet état d'esprit suffisant, insolent, arrogant, lié au sentiment de sécurité illusoire engendré par la possession des biens matériels. L'illusion du pouvoir, de la puissance et de l'influence. Que l'on va retrouver, curieusement, dans une des sept églises de l'Apocalypse, l'église de Laodicée. Mal qui frappe donc aussi l'église, je suis riche, disent les membres de cette église, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et lorsqu'on va plus loin, on dira, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est Sodome. Sodome avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance, dans une insouciante sécurité. Elle est devenue hautaine, elle s'est enhardie et a commis des abominations. Est-ce que ce n'est pas 1 Jean 2:16, à la mode de l'Ancien Testament? Dans Luc 17, versets 26 à 29, Jésus va là aussi commenter. Et il écrit, il nous dit ce qui est écrit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Du fils de l'homme, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Vous avez vu la succession de verbes qui évoque le matérialisme roi. Dieu mis à la porte. La loi de Dieu congédiée est comme grand slogan, le tout est permis. Il est interdit d'interdire, au point même qu'alors que du temps de Noé, le mariage apparaissait encore de la liste, il a désormais disparu. Il est devenu portion congrue, il n'a plus de sens, il n'a plus de valeur, même lorsqu'il est vécu comme cérémonie par la plupart des gens. Immoralité gangrénant toute la société depuis l'enfant jusqu'au vieillard. Violence semblable à celle des sodomites qui s'attaquent à Lot et à son domicile. Je ne voudrais pas que nous partions avec une dépression. Parce que j'ai un certain nombre de documents relevés d'ailleurs au fil de ces dernières semaines qui m'ont bouleversé, montrant l'acuité du problème, du désordre moral actuel. Mais je ne vais pas le faire. Je crois qu'on va le laisser de côté. Il y aurait tant de choses à dire, mais vous en savez au moins autant que moi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un terrible jugement a surpris toute une population installée dans une sécurité illusoire. Et le problème de Madame Lot, c'est que son cœur était resté à Sodome. Attaché, enraciné dans ses valeurs que nous venons brièvement de décrire. Et cela me rappelle une visite faite il y a déjà bien des années dans les ruines de la cité de Pompéi. J'avais été très impressionné de pouvoir lire dans ces ruines extraordinaires de
cette cité détruite avec sa voisine par l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère. J'avais été bouleversé de pouvoir lire en particulier l'état d'esprit, l'immoralité, la hiérarchie des valeurs dans cette cité à l'heure où elle était ensevelie sous les scories et les cendres. On a beaucoup écrit sur cette cité et sur cette éruption du Vésuve. Et on a, par exemple, découvert, lors des fouilles de cette ville complètement recouverte de cendres, on a découvert le corps d'une femme momifiée par ses cendres. Sa posture racontait une histoire tragique. Il se trouve que ses pieds pointaient vers les portes de la cité. C'est-à-dire que manifestement, elle avait pris une orientation pour quitter parce qu'elle avait peur. Mais au même moment, ses bras et ses mains était tendue vers quelque chose qui se trouvait derrière elle. Elle était donc momifiée dans une position, n'est-ce pas, torsadée en quelque sorte, n'est-ce pas, sur elle-même, une partie de son corps au niveau de ses pieds allant vers la sortie, mais le haut de son corps et ses mains et son regard en particulier allant dans l'autre direction. Et il se trouve qu'on a découvert que le trésor qu'elle tentait de saisir était un sac de perles. Et l'auteur du livre qui raconte cette anecdote dit bien que la mort ait été à ses talons et que la ville est appelée de l'autre côté de la porte de la ville, elle ne parvint pas à se détourner de la malédiction. Toutefois, ce n'était pas l'éruption du Vésuve qui lui fit aimer les perles plus que la vie. Elle ne fit que la figer dans cette attitude de cupidité. Un regard, des gestes, qui étaient simplement l'émergence, la partie visible de ce qui était tapis au fond de son cœur et de son âme. Nous nous trahissons, cher bien-aimé. Et ce que nous voyons et regardons et cultivons, ce qui occupe tant de place dans notre vie, transpire à quelque part dans nos gestes, dans notre comportement et dans nos paroles. Et je ne peux pas m'empêcher, en cette année qui, en Martinique, est l'occasion de fêter, mais hélas dans un sens quand même négatif, le 100e anniversaire de l'explosion de la montagne Pelée, n'est-ce pas ? Je ne peux pas m'empêcher de vous livrer un tout petit morceau d'un livre d'un historien actuel que j'aime beaucoup, Pierre Miquel, qui, dans un de ses livres, parle de cette éruption en tant qu'historien. Voilà ce qu'il écrit. C'était en mai 1902. Le volcan de la Martinique était tranquille depuis un demi-siècle. Les 30 000 habitants de Saint-Pierre n'avaient plus peur. Le dimanche, ils organisaient des excursions vers le sommet. Pourtant, depuis le 15 avril, la montagne de nouveau fumait. Personne ne s'en inquiétait. C'était un charme de plus pour les pique-niques. Les jeunes s'approchaient le plus possible du cratère. Ils racontaient en descendant qu'ils avaient entendu gronder le volcan. Mais personne ne songeait à les empêcher de grimper. Même quand sur la nappe étalée dans l'herbe, on voyait se déposer pendant le repas une petite pluie de cendres fines. Pourtant, les grondements de la montagne, au lieu de cesser, s'accentuent. Les autorités n'y prennent pas garde. Les habitants de Saint-Pierre, qui ont de petits jardins ou des baraques de week-end au flanc de la montagne, se plaignent de voir des serpents faire irruption. Les espèces attendues d'oiseaux migrateurs ne viennent pas. Il se passe d'étranges choses, mais personne ne donne l'alerte. Et soudain, le 5 mai, les ouvriers d'une sucrerie située sur le flanc du volcan sont surpris en plein travail par une formidable poussée de lave et de cendres. Il y a des morts. Cette fois, l'alerte est donnée à Saint-Pierre. Au lieu de faire évacuer la ville, les autorités recommandent à chacun de rester à son poste. Le gouverneur général Moutet vient tout exprès de Fort-de-France pour rassurer les gens. « Il n'y aura pas d'éruption, déclare-t-il. C'est une commission de savants qui l'a établie. Que tout le monde reste chez soi. » D'ailleurs, les élections législatives sont proches. Il n'est pas question que les électeurs de Saint-Pierre fassent désertion à la veille d'un scrutin. Que dirait-on à Paris ? La femme du général va de famille en famille, de thé en thé, pour rassurer les dames de Saint-Pierre, puis les officiels s'en vont après avoir prodigué des paroles rassurantes. De fait, après 3 jours de grondements et de pluie de cendres, on peut croire que le volcan s'est calmé. Les habitants sortent des caves et des églises. Ils se pressent autour des affiches électorales. L'essentiel de la population reste. Elle croit que le volcan va s'assoupir et que personne n'est là pour la détromper. Et dans la nuit, du 7 au 8, le volcan se réveille brutalement. Toute la ville se précipite vers la mer. Tout ce qui peut courir, court. La montagne gronde follement. Des flammes immenses jaillissent. Il y a 20 bateaux dans la rade. Ils sont pris d'assaut. Tout à coup, un véritable rideau de feu jaillit du sommet. En quelques secondes, il est sur la ville. Elle disparaît entièrement sous la lave brûlante. En un éclair, la rade devient bouillante. Les bateaux chavirent comme s'ils fondaient sous la chaleur. Et j'ai eu le privilège, il y a quelques années, d'aller en sous-marin dans la baie de Saint-Pierre et de voir, et de faire le tour de ces carcasses de bateaux, visibles encore à l'heure actuelle dans le fond. En un éclair, donc, la rade devient bouillante, les bateaux chavirent comme s'ils fondaient sous la chaleur, la ville a disparu sous les yeux des témoins, dans les entrepôts, les barils de rhum flambent, incendient la mer. Le lendemain, les marins d'un navire de guerre, le Suchet, débarquent dans la ville déserte. Tout est brûlé, carbonisé, enfoui sous la lave et les cendres. Mais soudain, les marins prêtent l'oreille, on entend comme un râle, comme un appel assourdi. C'est du côté de la prison. Quelqu'un, enfermé dans le souterrain, essaie de s'arracher de l'enfer, on le délivre. C'est le seul survivant de la Martinique, le seul témoin du désastre. Et voyez-vous, nous apprenons si peu des leçons de l'histoire. Lors d'un de nos tout dernier séjour en Martinique, où j'avais d'ailleurs une série de conférences à Saint-Pierre, j'ai relevé dans une de mes lectures cet extrait. Sur les ruines encore fumantes, on se précipita à la recherche d'or, d'argenterie, de bijoux. On triait les cadavres pour exhumer les trésors des vieilles bâtisses créoles. On vint même des îles anglaises se repaître de l'aubaine. Je ne sais si des richesses se sont ainsi fondées, mais il existe une chanson du folklore, donc martiniquais, qui le suppose. Des âmes reconnaissantes y disent en substance et en tout cynisme « Vive le volcan !» La chanson décrit des gens souliers vernis, en complet Costco, à montres pourvues de grosses chaînes, résidant dans des maisons vitrées qui roulent en calèche à chevaux et qui disposent de 3 bonnes à la cuisine et qui psalmodient dans le secret de leur cœur « Vive volcan !» Elle signale aussi de belles madames, habillées de broderies anglaises, en chaîne forçat, bottes à pompons aux pieds, anneaux brillants à chaque oreille, épingles en or dans les cheveux et qui devaient hurler « Vive volcan !» Comme à Sedan. Un terrible jugement qui a surpris toute une population installée dans sa sécurité illusoire. Un terrible jugement qui annonce le jugement qui vient. Le jugement qui est à la porte. Puisque Jésus le dit, Luc 17, verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Malheur alors à toutes les dames Lot. Qui n'auront pas divorcer d'avec ce système pour se tourner vers Jésus-Christ, puisqu'il a payé dans sa mort sur la croix la rançon suffisante pour nous arracher à ce système et nous transporter dans le royaume de la lumière. Mais il y a M. Lot, second regard, un regard trouble, un regard fou, une vision brouillée. Et si son regard est flou, si son regard est trouble, si sa vision est brouillée, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu de la part de M. Lot un changement de regard. Parce que Lot est appelé le juste dans le Nouveau Testament et en particulier dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2 et dans les versets 6 à 8 de Pierre 2, 6 à 8. Si donc Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Nous reviendrons sur ce passage. Lot le juste, parce qu'il a pris un bon départ. Parce qu'à un moment donné, il y a eu dans sa vie, à quelque part, une rupture avec son passé. Son passé, c'était celui d'une cité prestigieuse, de la Mésopotamie, au-delà de l'Euphrate, Ur en Chaldée. Cité extraordinaire, très évoluée dans quantité de domaines, extrêmement riche, sophistiquée, intelligente. Il a quitté des idoles, il a quitté une religion, il a quitté un monde païen, il a quitté un cosmos, un système, pour mettre sa confiance dans le Dieu d'Abraham, son oncle, et pour marcher avec lui. Mais le problème de Lot, parce qu'il y a un problème, c'est que Lot est un suiveur. Lot est un accompagnateur de son oncle. Jusqu'à un certain point même, nous pourrions dire qu'à quelque part, il vit plus de la foi de son oncle que de la sienne propre. Sa foi n'est qu'un pâle reflet de celle de son oncle Abraham. Il va donc s'installer dans le sillage de son oncle, il va suivre le mouvement, il va profiter des bénédictions reçues de Dieu par son oncle. Il est un petit peu comme ces suiveurs du Tour de France. Ils disent « j'ai fait le Tour de France », mais ils oublient parfois de préciser que ce n'est pas sur une bicyclette qu'ils l'ont fait. Le problème de Lot, c'est que c'est un conformiste. C'est un bon conformiste dans un sens. Puisqu'il a bien choisi son modèle c'est Abraham, le père des croyants. Mais Dieu veut plus que cela. Et en fait, il va y avoir à un moment donné de l'histoire de Lot et d'Abraham une crise. Et mes amis, c'est dans les crises, c'est dans les situations d'épreuves, dans les situations de conflits, que les priorités du cœur se révèlent. Et que souvent, les regards expriment bien ses priorités du cœur. Et cette crise va avoir lieu au chapitre 13. Je suis sûr que vous aurez du plaisir et de l'intérêt à lire ces passages. Lorsqu'il y a querelle entre les bergers des troupeaux de l'oncle Abraham et les bergers des troupeaux de Lot lui-même, ils se sont tous les deux largement enrichis d'ailleurs, dans une escapade regrettable en Égypte, où ils ont été chassés par Pharaon lui-même. Et là, Il nous est dit au chapitre 13, verset 10, donc, Abraham fait remarquer qu'étant de la même famille, il n'est pas normal qu'ils se battent. Il y a d'autant plus des témoins qui autour, des païens qui les regardent, et c'est pas un beau spectacle. Et donc Abraham, généreusement, dit, écoute, choisis. Je ne vais pas choisir, je te donne à toi la priorité. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu choisis le lieu où tu veux aller avec tes troupeaux. Et il nous est dit au verset 10 que Lot leva les yeux. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et n'est-ce pas, ça allait jusqu'à Sodome. La petite, l'insignifiante, hein, c'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, les bords du Nil avec ses crues et ses alluvions et toute la végétation qui s'ensuivait, n'est-ce pas? Vous imaginez? Et ça a fait tilt. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, il s'avança vers l'Orient et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Oh, mes amis, il y en aurait des choses à dire sur ce choix. Ce choix révélateur d'une terrible myopie spirituelle. Choix égoïste, superficiel, basé sur le court terme. Choix qui s'appuie sur les apparences comme trop de disciples de Jésus-Christ aujourd'hui. Se laisse prendre à l'appât des apparences. Sans tenir compte de la dépravation de Sodome et de Gomorrhe. Et le problème de Lot, c'est qu'aux côtés d'Abraham, c'est vrai, il avait bien quitté l'Égypte, il avait quitté l'Égypte dans son corps. Mais l'Égypte ne l'avait pas quitté. L'Égypte était dans son cœur. Et les conséquences ont été tragiques, puisqu'il nous est dit que Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ah, il est encore mobile, mais il file inexorablement, attiré par cet aimant sodomite et toutes ses richesses, région dans laquelle il y avait d'ailleurs du pétrole. Des puits de bitume à l'époque. Et puis un peu plus loin, chapitre 14. Bon, vous avez le verdict, hein, au verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et croyez-moi, on n'avait pas besoin de la télé et du téléphone. Les nouvelles couraient vite et on savait la réputation de Sodome et Gomorrhe. La transmission, la communication orale était quelque chose de phénoménal dans le monde ancien. Et puis au verset 12 du chapitre 14, il est dit que ceux qui se sont attaqués à la région ont enlevé aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Il demeurait à Sodome. Il a donc mis ses tentes en vente. Il a récupéré un peu d'argent, il était déjà très riche. Il a vendu ses troupeaux. Il s'est acheté une belle demeure et il s'est installé dans la ville. Et là, semble-t-il, il a pris du galon. Puisque chapitre 19 nous dit dans les premiers versets que Lot était assis à la porte de Sodome. C'est-à-dire à un endroit stratégique, là où se trouvait la place, et le lieu où les jugements étaient rendus, où on réglait toutes sortes de problèmes. Lieu tellement important que les gens en voyage qui cherchaient domicile pour la nuit ou les nuits suivantes passaient par là pour pouvoir être reçus dans la cité. Peut-être était-il donc devenu l'un des notables membres du conseil municipal de Sodome, dirions-nous aujourd'hui. Mais vous avez remarqué que lorsque ces anges, ces deux messagers, verset premier, les deux anges, arrivent depuis les hauteurs où ils ont rencontré avec Dieu lui-même, dans cette sorte de théophanie, cette manière dont Dieu, dans l'Ancienne Alliance, s'est parfois révélé de manière indirecte, mystérieuse. Vous lirez le chapitre 18. Lorsque ces deux anges arrivent, et que donc ils se prosternent pour leur dire, mais entrez donc, passez la nuit. Lavez-vous les pieds. Les anges ne sont pas à l'aise. Et ils commencent par dire non. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Les anges n'ont donc pas envie de demeurer dans la maison de l'arche. Là où, dans le chapitre précédent, lorsque ces trois personnages célestes, dont l'Éternel apparaissent près des chênes de Manré, à l'heure de la sieste, à l'heure chaude de l'après-midi, et que Abraham se précipite au-devant d'eux au début du chapitre 18, en leur disant, « Mais Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. » Nous, on va vous laver les pieds. Il y a déjà une différence. « J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, etc. etc. » Et ils répondirent, c'est comme tu l'as dit. Ils étaient heureux de le voir. Heureux de venir s'asseoir à l'ombre de ces arbres et de sa tente. Quelle différence. Et bien alors, il y a ce drame absolument épouvantable, mais devenu presque une normalité maintenant, de cette population qui obéit à tous ces fantasmes les plus odieux et qui donc se précipite vers cette chair fraîche et inconnue, tambourinant sur la porte pour réclamer son dû sexuel. Et c'est là que l'attitude de Lot est intéressante et inquiétante. Voilà que notre ami Lot est plus attaché aux règles de l'hospitalité. C'est vrai, tellement importante, beaucoup plus attaché donc aux règles de la culture qu'à sa foi dans le Dieu protecteur. La tradition prime sur sa foi dans le Dieu vivant. Je vous offre mes filles. Et mes amis, nous n'avons pas de leçon à donner, mais nous avons un enseignement à tirer, à savoir que nous vivons dans un monde tellement pollué que, précisément, si nous avons cette tendance à nous installer au cœur de Sodome par nos lectures et par tous les autres moyens qui nous permettent de côtoyer de très près ce monde-là, eh bien, nous finissons par avoir une conscience faussée. Et nous finissons par nous permettre les choses les plus odieuses sans remarquer combien elles sont odieuses. Il en était arrivé là, Lot. Il était incapable de voir combien son offre était choquante. Combien ses valeurs de pureté avaient baissé. Et la fin du chapitre 19 le prouvera, puisque finalement, après avoir quitté même Tsoar pour se réfugier plus haut dans la montagne, dans une caverne, ce sera le double inceste de Lot enivré avec ses deux filles et la naissance de deux ancêtres, de deux petits bébés qui seront les pères, les ancêtres des Moabites et des Ammonites. Mes amis, faites comme Lot, faisons comme Lot. Choisissons nos émissions de télévision. Choisissons nos lectures. Choisissons nos programmes internet et autres. Choisissons nos spectacles, mais ne nous étonnons pas si dans nos cœurs les valeurs changent. Et si à un moment donné, nous allons être tout étonnés quand un homme ou une femme de Dieu bien intentionné de la part de Dieu va oser nous dire « Mais tu sais, ce que tu fais là est dangereux, ce que tu fais là est coupable, ce que tu fais là montre que tu n'as pas de foi dans le Seigneur, que tu es attaché aux traditions, à la culture, à la manière de vivre d'aujourd'hui, mais que ça n'a rien de chrétien. » Alors vous allez vous révolter, vous allez dire « De quoi il se mêle ?» Vous allez être choqués. Mais ce sont vos valeurs, ce sont nos valeurs qui sont en train de changer, mes bien-aimés. Un pasteur de la région parisienne me disait récemment que quand il va faire ses visites dans les foyers, il est parfois odieusement choqué parce que quand il arrive, il voit des enfants et parfois des adultes dans la maison en train de regarder un programme que lui n'oserait jamais regarder. Tellement ce programme est dégoûtant. Oh mes amis, nous pouvons croire ou non à la venue du jugement. Mais il viendra. Nous pouvons croire ou non au retour de Christ, mais il viendra. Nous pouvons croire ou non à l'enlèvement de l'Église, mais il viendra. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses menaces. Et je l'entends, le bruit des pas de Dieu qui est en train de descendre en ce moment. Vu le point auquel nous sommes arrivés dans notre monde de la fin. Et remarquez que lorsque Lot relaie le message des anges auprès de sa famille, auprès de ses gendres, ce qui montre aussi que si nous voulons que nos enfants soient en Christ, donnons-leur un environnement qui leur permette de rencontrer des jeunes gens et des jeunes filles qui connaissent Christ, qui l'aiment et qui lui soient consacrés. Si nous installons nos enfants dans le monde de Sodome jusqu'au cou, que nous choisissons nos plaisirs et nos priorités dans ce monde de Sodome jusqu'au cou, n'allons pas pleurer si ensuite nos enfants ont des gendres, ou des maris, ou des femmes, qui sont sodomites. Bien sûr que nous ne sommes pas toujours responsables, mais notre rôle d'aîné, c'est de placer nos enfants dans la meilleure situation pour favoriser le bon choix. Si ensuite ils font un mauvais choix, c'est leur responsabilité. Mais je ne veux pas, en tout cas je ne veux pas que nos enfants fassent des choix sodomites. Je ne veux pas leur donner cette possibilité. S'ils la prennent ensuite, c'est leur affaire, mais je ne veux pas leur donner. Et le résultat, c'est que quand notre ami Lot supplie en quelque sorte ses gendres de quitter la ville, il est dit qu'aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Comment voulez-vous que nous ayons un impact dans notre témoignage si nous faisons ce que le monde fait? Si nos priorités sont celles du monde, si notre manière de vivre est celle du monde? Je pense à ce qu'a écrit ce théologien que je n'apprécie pas par bien des côtés, Søren Kierkegaard, parce qu'il a introduit le relativisme en théologie. Kierkegaard, ce théologien danois, a écrit ceci. Il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public. Le bouffon. On pensa qu'il faisait une farce et on l'applaudit. Le bouffon insista autant qu'il put et le public riait de plus belle. Et Kierkegaard ajoutait, c'est ainsi, je pense, que périra le monde. Dans la joie générale des gens spirituels qui croient à une farce. Mes amis, si en tant que disciples de Jésus-Christ, en été comme en hiver, mes amis, en vacances comme le reste de l'année, nous nous conduisons en bouffons, ne nous étonnons pas si le monde ne nous prend pas au sérieux. Et en fait, nous l'avons lu tout à l'heure, Lot fait penser, d'après 2 Pierre 2, 6 à 10, à un disciple de Jésus-Christ, à la vision brouillée, sans paix, tourmenté, anxieux, angoissé, au cœur partagé, assis entre deux chaises, sans puissance, sans fruit, sans influence. Mes amis, si du matin au soir,
Nous nous imprégnions des valeurs de ce monde. Ne nous étonnons pas si nous sommes angoissés en permanence. Si nous vivons dans la crainte en permanence, si nous faisons des cauchemars. Cet homme de bien, Lot, écœuré par les pratiques immorales de ces hommes pervers, ce juste qui vivait au milieu d'eux, certes, mais son âme intègre était torturée à longueur de journée par les agissements criminels qu'il lui fallait voir et entendre quotidiennement. Mes amis, si nous ne tournons pas nos regards vers le ciel, la dominante de notre vie, ce sera la torture. Parce qu'on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ sans être torturé quand on a un cœur partagé. Je l'ai dit si souvent, le disciple de Jésus-Christ ne connaîtra pas le drame des peines éternelles, infernales. Mais un Lot peut connaître les peines aussi terribles sur la terre, lorsque son cœur est partagé. Et voyez-le ensuite, quand finalement il est arraché, arraché, mes amis. Est-ce que nous avons besoin d'être arrachés à nos valeurs, à notre compte en banque? Lorsqu'il est arraché avec une certaine violence, rapté par les anges, il continue à négocier. Voilà un homme qui ne sait que prier pour lui. Ce n'est pas intercéder pour les autres. Il ne sait que prier pour lui, supplier que Dieu lui accorde au moins Tsoar. Un tout petit, petit salut. Tsoar, la minuscule. Tsoar, l'insignifiant. S'il te plaît, la seule chose que je te réclame, c'est un tout petit salut. Je me contente, Seigneur, du SMIG. Je te coûterai pas cher. Tsoar. Et d'ailleurs, il dit, et cela m'a frappé, « Oh non, Seigneur !» Vous vous rendez compte? On dit « Non, Seigneur !» Comment Dieu peut-il être Seigneur dans notre langage et peut-on lui dire « Non !» s'il est vraiment Seigneur? Et la grâce de Dieu, la générosité de Dieu, mais avec quel regret, c'est de lui accorder exaucement de prière. Tu veux un petit salut? Je ne peux pas faire autrement que te donner un petit salut. Je voudrais faire autrement, mais je ne peux pas. Parce que tout est question de regard, tout est question de priorité. Ce sont tes choix. Ce sont tes choix qui sont en cause. Et ainsi, à l'heure du jugement, Lot doit être arraché à son chez-soi. Il est en quelque sorte surpris par l'événement. Il n'est pas prêt, mais bien aimé. Sommes-nous prêts? Suis-je prêt? Lorsque les trompettes retentissantes des anges annoncent le jugement de Sodome et sonnent dans la nuit épaisse, Lot n'est pas prêt. Il est arraché, il est sauvé comme au travers du feu. Nu. Devant le Christ, sans couronne à déposer aux pieds du Seigneur, sans récompense. L'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens 3,15, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » In extremis, mes amis. J'ai entendu ce matin aux informations une nouvelle qui m'a intrigué. Celle d'un homme qui, ces tout derniers jours, apparemment meurt d'un cancer en phase terminale. Le médecin de l'hôpital est là, ça se passe dans un hôpital, il signe le certificat de décès, il donne le permis d'inhumer, on transporte le cadavre vers le lieu où on les garde, à la morgue de l'endroit. Et voilà qu'à ce moment-là, un employé découvre qu'il est encore vivant. Et donc il est en ce moment, toujours entre la vie et la mort, en réanimation. Et on hésite à faire de nouveaux papiers, on ne sait pas. In extremis. In extremis,
comme ce qui s'est passé à Francfort au printemps de l'année 67, où un ivrogne trouva refuge pour la nuit dans une poubelle géante. Mais il s'y endormit, et au matin, le camion de la voirie enleva la poubelle, la vida dans la décharge publique, une véritable montagne de détritus au nord de Francfort. Et de là, notre homme fut pelleté sur un tapis roulant qui charriait les immondices jusque dans l'orifice d'un incinérateur. Et à quelques mètres de la fournaise, l'homme sommeillait encore. Mais un ouvrier qui opérait un dernier triage découvrit le dormeur in extremis et l'arracha aussitôt au terrible sort qui l'attendait. Mes amis, Lot est dans l'ancienne alliance, cette préfiguration de ceux et celles qui seront arrachés in extremis parce qu'ils auront vécu dans la médiocrité d'un regard brouillé, d'un cœur partagé, parce qu'ils seront allés se fourrer au cœur de Sodome. Au lieu de vivre, et je termine par là, comme tonton Abraham. Mais il nous faudrait une semaine pour parler de lui. Je n'en dirai que quelques mots. Abraham, le juste, lui aussi, et l'homme de Dieu au regard juste. L'homme de Dieu au regard équilibré, dont il nous est dit au chapitre 19, verset 27, qu'Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. C'est intéressant. Il s'était tenu en présence de l'Éternel. Et vous savez où il s'était tenu en présence de l'Éternel? Eh bien, il s'était tenu en présence de l'Éternel, nous l'avons dit tout à l'heure, près des chênes de Mamré, à quelques 3 kilomètres de la ville d'Hébron. Hébron. Cette ville appelée aujourd'hui par les Arabes El Khalil, l'ami de Dieu. L'ami de Dieu, oui, Hébron. En souvenir de qui? D'Abraham, l'ami de Dieu. Là, nous sommes à quelques 35 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, mais surtout à quelques 1200 mètres au-dessus de Sodome. 1200 mètres, vous vous rendez compte? Ah, Dieu est bon, parce que même la géographie physique peut nous aider à comprendre. Il est tellement plus haut! Plus haut, dans la présence du Seigneur. Il se tient en présence de l'Éternel, chapitre 18, verset 22. Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham, voilà un homme qui aime la présence de l'Éternel. Vous aimez la présence de l'Éternel? Vous l'aimez? Alors prouvez-le. Prouvez-le. Vivez-le. Vivons-le. Trois grandes caractéristiques dans sa vie. Abraham est un homme qui dresse des autels. Partout où il passe, il dresse des autels. Et quand il dresse un autel, cela veut dire qu'il communie avec Dieu. Il adore Dieu, il invoque Dieu. Et il considère que le lieu sur lequel l'autel est dressé appartient à Dieu. Cet endroit, je le revendique pour toi. C'est un homme de prière. Abraham, c'est l'homme qui reçoit des promesses et des révélations de Dieu. Il dresse des autels, Dieu lui ouvre le ciel. Dieu se révèle à lui, Dieu lui fait des promesses de plus en plus précises. C'est un homme de la parole de Dieu. Qui dit promesse de Dieu, dit parole de Dieu. La parole de Dieu, elle alimente sa foi. Elle est le stimulant de son espérance. Elle le stimule de manière permanente dans sa marche en avant, malgré tous les obstacles et les difficultés, tous les vents contraires. Et puis enfin, Abraham, c'est l'homme qui dresse et plie sa tente continuellement. D'ailleurs, lorsqu'il oubliera sa tente, par désobéissance, que de problèmes. En Égypte, plus tard avec Agar. Mais c'est l'homme de la tente, c'est-à-dire l'homme campeur, obéissant, disponible, mobile, qui refuse l'enracinement dans l'éphémère, l'encroûtement, qui tient
les choses de cette terre légèrement, qui refusent d'être tenues par le monde. Ça, c'est le trépied d'une vie chrétienne normale. Trois pieds. L'autel, les promesses, l'attente. Mes amis, ôter un pied à un trépied, il ne sert plus à rien. Et ce sont des éléments interdépendants. Si vous supprimez la prière, vous ne lisez plus la Bible et vous n'obéissez plus. Si vous n'obéissez plus, Dieu ne vous parle plus, vous n'avez plus envie de prier. Si vous cessez de lire la Bible, vous n'avez pas d'aliment pour la prière, vous n'obéissez pas. Abraham avait un trépied dans sa vie. Lisez l'histoire d'Abraham. Et pour cela, il est appelé l'ami de Dieu dans Jacques 2, 23. Et c'est ainsi qu'au fil de sa croissance dans la foi, Dieu se révèle à lui de plus en plus profondément sous des noms nouveaux. El Elyon, El Shaddai, Yahvé Iré, El Olam, le Dieu qui se révèle. Est-ce que nous voulons que Dieu se révèle à nos cœurs? Puisque ces communications intimes sont pour ceux qui le craignent, dit le psaume 25 et le verset 14, si je me souviens bien. L'homme du sanctuaire. Mais aussi, et c'est pour cela que je ne voulais pas passer par-dessus cette vérité pour aller à la conclusion, c'est aussi un homme qui sait porter ses regards du côté de Sodome. Son regard est dans le ciel, mais en même temps, son regard se porte vers Sodome, c'est ce qu'il dit. Il dit au chapitre 19, verset 28, il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe. Son cœur est dans le ciel, mais il n'est pas insensible à la situation dramatique de Sodome et de son neveu Lot. Abraham aime les hommes sans aimer le monde. Et c'est pour cela qu'il est un intercesseur. Et vous avez dans le chapitre 18 un modèle de la prière d'intercession dans son équilibre entre l'audace de l'intercession et le profond respect dû à Dieu dans l'intercession pour que Dieu intervienne en faveur de Lot et des siens, en tout cas au minimum à Sodome. Je ne voudrais pas vous retenir, mais je voudrais simplement brièvement vous montrer le témoignage d'une église à New York. Pendant notre dernier séjour au Québec ce printemps, à la sortie d'un culte, j'ai longuement rencontré un membre de cette église qui arrivait de New York et qui venait de participer à New York à des conférences au cours desquelles était intervenu un pasteur d'une église de ce quartier de Manhattan où se trouvaient les deux fameuses Twin Towers, n'est-ce pas, du World Trade Center. Et il m'a raconté le témoignage de ce pasteur. Il m'a dit que l'église, il y a bien des années en arrière, une église locale de New York avait décidé d'acheter, à proximité de ces deux tours, une surface au sol, parce que c'est ainsi qu'on procède aux USA, on achète la surface au sol, et on peut racheter ensuite au-dessus, lorsque le bâtiment est terminé. Si quelqu'un d'autre un jour décide de construire au-dessus, il achète la surface du dessus et puis continue on travaille à partir de la surface au sol. Donc, cette église décide d'acheter une surface au sol pour construire une chapelle petite, un ou deux étages, de manière à rendre un témoignage dans ce quartier, à annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans ce quartier important de New York. Et voilà que en 2000, un promoteur immobilier vient annoncer à ce pasteur, subitement, qu'il a l'intention de construire 60 étages au-dessus de l'église, de la chapelle. Donc il achète la partie d'au-dessus, vide,
pour construire sur cette chapelle 60 étages. Et ce promoteur dit à ce patient, vous savez, il serait beaucoup plus sage que vous nous vendiez la chapelle, parce que ça va vous créer des nuisances, etc., etc. Et il propose même à ce pasteur d'acheter cette chapelle, tenez-vous bien, pour la somme astronomique de 30 millions de dollars. 30 millions de dollars comptait actuellement à peu près l'équivalent en euros. Rendez compte, la somme que cela représente. Disons, un dollar à 7 francs, pour ceux qui aiment les francs encore, 210 millions de francs. Un dollar à 7 francs 30, 219 millions de francs. Ça vous donne une idée. C'est un petit bâtiment. Alors, ce promoteur fait pression, disant, vous savez, les bulldozers et tout ça, ils doivent venir dans les jours qui viennent. Hein. Tout est déjà prêt, les entreprises, etc. Il pense qu'il a déjà le marché. Pasteur lui dit, écoutez, excusez-moi, je dois voir mon conseil d'église. Parce que nous devons demander à Dieu si c'est sa volonté. Et quelques heures plus tard, le pasteur prend contact avec le promoteur et lui dit, non, vos 30 millions de dollars ne nous intéressent pas. Un témoignage évangélique doit être rendu dans ce quartier. Dieu nous y a appelés et nous allons continuer à annoncer l'évangile dans ce quartier. Et le 11 septembre 2001, vous le savez, ces Twin Towers sont effondrés. S'il y avait eu un grand immeuble à la place, mais la chapelle n'a pas été touchée. Dieu a maintenu son témoignage dans le quartier de Manhattan. Et j'apprenais dans une de mes lectures de la semaine écoulée que le milliardaire juif américain Larry Silverstein était propriétaire depuis moins de 2 mois des tours jumelles du World Trade Center, depuis moins de 2 mois, lorsqu'elles ont été anéanties. Si on lui avait dit, lorsqu'il a signé l'achat, que 2 mois plus tard, il y aurait un tas de ruines fumantes et des milliers de morts, l'aurait-il cru? Mais le livre de l'Ecclésiaste le dit, vanité des vanités, tout est vanité. Le monde passe. Buée des buées, tout est buée, dira une traduction, la buée. Insignifiant. Mes amis, je termine. Je termine simplement en soulignant son impact à Abraham sur ceux qu'il voit vivre. Genèse 21, 22, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Chapitre 23, verset 6, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Et puis son regard au loin, il attendait, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 10, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce que nous regardons plus loin que le bout de notre nez? Moi, je l'attends. J'attends de faire connaissance avec cette cité céleste, avec le divin architecte. Pas l'architecte de la franc-maçonnerie, le vrai. Oh, je l'attends. D'ailleurs, Abraham, c'est Jésus qui le dit, Jean 8, 56, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. On ne sait pas comment. Il l'a vu. Il l'a vu. Le jour de Christ. Quelle différence, n'est-ce pas? Un regard tourné vers la perspective du ciel. Nous dirions aujourd'hui un disciple de Jésus-Christ prêt pour le retour du Seigneur. Abraham vit sur la terre dans la perspective de la cité céleste, de la rencontre avec son Seigneur et son Dieu. Mes amis, 3 regards. Nous l'avons dit en introduction. Chacun d'entre nous est au moins l'un de ces 3 regards. Mais il y a possibilité de changer de regard, dans le bon sens. De passer du regard de Madame Lot au regard d'Abraham, de passer du regard de Monsieur Lot au regard d'Abraham. à nous de choisir devant Dieu nos valeurs, celles qui passent, celles qui demeurent, et à nous de le concrétiser dans notre quotidien en rentrant à la maison aujourd'hui, pas demain, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est peut-être aujourd'hui qu'il y a du ménage à faire, qu'il y a des priorités à réévaluer pour marcher sur les traces d'Abraham, mais avec une foi qui nous soit propre, solide, près des chaînes de Moré, plutôt qu'au cœur même de l'esprit sodomite de notre temps, tout en intercédant pour ceux qui nous entourent, afin qu'un grand nombre encore soit sauvé, tant qu'il en est temps. Je vous laisse cette parole de cet homme de Dieu, évangéliste américain de grande valeur, Moody, qui a écrit ceci: j'ai entendu il y a quelque temps un homme parler d'Abraham. Il a dit: Abraham n'a pas été tenté par les plaines fertiles de Sodome, car il avait ce que l'on pourrait appeler la vue de loin. Il avait les yeux fixés sur la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais Lot, lui, ne voyait que de près. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'Église qui ne voient que de près. Ils ne voient que ce qui les entoure. Et ils pensent que c'est bon. Abraham voyait au loin. Il a eu un aperçu de la cité céleste. Il y a donc ces deux catégories de gens, ceux qui voient de loin ou au loin, et ceux qui voient uniquement de près. Et je crois que l'Église est pleine de ces gens-là. Ils veulent garder un œil sur le monde et l'autre sur le royaume de Dieu. C'est pourquoi tout devient fou pour eux. Un de leurs yeux voit de près et l'autre de loin. Tout devient donc confus. Ils voient des hommes, mais comme des arbres, ils marchent. L'Église est remplie de cette sorte de gens. Mes amis, qu'il n'en soit pas ainsi dans les murs de cette église locale.